La femme de verre permet de se faire une idée exacte de la structure intérieure du corps humain. Grâce à elle, nous percevons le squelette, bien entendu, mais aussi les vaisseaux sanguins et les principaux nerfs ainsi que les organes intérieurs les plus importants dans leur position et grandeur naturelle. Les organes s'illuminent successivement. C'est le cerveau qui commence à s'éclairer. Emballé dans ses trois méninges à l'intérieur de la cavité crânienne, cet organe le plus développé constitue le centre régulateur de la plupart des fonctions vitales. C'est ici où se forme, à la suite des impressions reçues du milieu extérieur, les perceptions, les idées et les pensées, ainsi que les impulsions aux actions consciemment voulues. La porte d'entrée de la trachée constitue le larynx. Il est formé par plusieurs cartilages mis en mouvement les uns contre les autres, ces cartilages provoquant une tension ou un relâchement des cordes vocales. L'air, en passant par le larynx, vibre et fait vibrer les cordes vocales, donnant ainsi naissance au son de la voix humaine. L'épiglotte ferme le larynx pendant l'acte de la déglutition et empêche ainsi la nourriture de pénétrer dans la trachée. La glande thyroïde est située au-dessous de l'épiglotte et devant la trachée. Elle accumule l'iode prise avec la nourriture et le transforme en une hormone, la thyroxine. Cette hormone thyroïde stimule les phénomènes de nutrition de l'organisme entier. En cédant au sang l'hormone en quantité variée, la glande thyroïde adapte les fonctions de nutrition aux besoins du corps. Les deux poumons, organes de la respiration, occupent la partie la plus grande de la région thoracique. Le mouvement de l'air dans les poumons provoqué par les mouvements respiratoires amène l'oxygène vers le sang et enlève le gaz carbonique qui s'est formé dans le corps et que le sang a amené aux poumons. Le cœur se trouve derrière le sternum. Il s'étend jusqu'à la moitié gauche de la poitrine. C'est un muscle creux qui pompe le sang à travers les vaisseaux sanguins. Une cloison partage le cœur en deux moitiés. La moitié gauche conduit le sang enrichi d'oxygène venant des poumons vers le corps. La moitié droite enlève le sang chargé de gaz carbonique venant de la circulation vers les poumons afin d'effectuer l'échange d'air vicié contre de l'air neuf. La rate se trouve derrière l'estomac, dans la cavité abdominale, à gauche, logée immédiatement sous le diaphragme. Le diaphragme sépare les cavités thoraciques et abdominales. La rate a pour rôle d'absorber les toxines qui se trouvent dans le sang et de rendre inoffensifs les germes pathogènes. En outre, elle dissout les globules du sang usés. Le fer alors libéré est accumulé dans la rate où il est utilisé pour la formation nouvelle de globules rouges du sang. L'estomac est une outre musculaire capable de se dilater largement. Dans ses parois se trouvent les nombreuses glandes gastriques. Le suc gastrique, sécrété par elles, prépare la digestion des albumines de la nourriture absorbée en détruisant en même temps presque tous les germes microbiens contenus dans la nourriture. Le contenu de l'estomac passe alors vers le duodénum, dans lequel débouchent deux grandes glandes digestives. Comme dans notre modèle, le pancréas se dérobe à la vue, puisqu'il est caché par l'estomac. Il n'est visible que par l'arrière de notre femme de verre. Le pancréas sécrète deux sucs différents, un suc pancréatique qui se déverse, de même que la bile, dans le duodénum et une hormone, l'insuline. Des groupes cellulaires en forme d'îlots sécrètent l'insuline qui passe du duodénum directement dans le sang et régularise les transformations des sucres. Le foie se trouve sur le côté droit de l'abdomen, sous le diaphragme. Véritable laboratoire chimique, il transforme en matière assimilable par l'organisme les substances alimentaires amenées par les vaisseaux sanguins des intestins. Il accumule le surplus de sucre sous forme de glucogène qui sert de réserve alimentaire aux muscles. Le foie désintoxique le sang et produit le suc biliaire. Le suc biliaire est accumulé dans la vésicule biliaire qui loge au-dessous du foie. Le suc biliaire joue un rôle important dans la digestion car il émulsionne en fines gouttelettes la matière grasse ingérée avec la nourriture. Au fur et à mesure des besoins, le liquide biliaire est conduit de la vésicule biliaire vers le duodénum à travers le canal cholédoque. La sécrétion quotidienne en bile s'élève à environ 1 litre. Dans l'intestin grêle, long de 5 à 6 mètres, la nourriture progresse grâce aux contractions ondulées des muscles intestinaux. Le grand nombre de papilles villeuses intestinales de la paroi de l'intestin grêle absorbe les matières alimentaires dissoutes par le suc intestinal. Les matières grasses sont absorbées par les vaisseaux lymphatiques, tandis que les albumines et les hydrates de carbone le sont par les vaisseaux sanguins qui entourent l'intestin grêle en forme de réseau fin et dense. L'appendice. Tout d'abord, le cæcum est constitué par le cul-de-sac qui se remarque à l'extrémité d'entrée de l'intestin grêle. Un petit appendice d'une longueur d'environ 5 cm. L'appendice vermiforme s'implante sur la partie inférieure du cæcum et peut être le lieu d'une inflammation. L'appendicite. Dans l'intestin, certains microbes détruisent, par les phénomènes de décomposition et fermentation, la cellulose provenant de la nourriture végétale. Dans le gros intestin, il faut distinguer les trois sections, c'est-à-dire le côlon ascendant, le côlon transversal et le côlon descendant qui conduit le contenu épaissi de l'intestin vers le rectum, la dernière partie du tube digestif. Le rectum se termine par un muscle constricteur de forme annulaire qui est soumis à notre volonté. C'est dans le gros intestin que le contenu de l'intestin perd son eau. Les microbes de la flore intestinale du gros intestin décomposent les matières restant encore utilisables. Les glandes muqueuses qui se trouvent dans la paroi du gros intestin par leur sécrétion évitent que les matières fécales ne durcissent au point d'irriter la fine muqueuse intestinale. Outre les sécrétions muqueuses, les glandes du gros intestin sécrètent constamment les déchets provenant du processus d'assimilation et de désassimilation. Les deux reins se situent en dehors de la cavité abdominale, à gauche et à droite de la colonne vertébrale, dans la région lombaire. Environ 1000 litres de sang parcourent les reins chaque jour. Ils éliminent du sang le surplus d'eau et de matières résiduaires nocives provenant du processus d'assimilation et de désassimilation, comme par exemple l'urée. L'urine se rend à la vessie par les deux urethères. La vessie, sac membraneux musculeux largement extensible, se trouve derrière l'os pubis. La vessie sert à ramasser l'urine. Elle peut contenir environ un demi-litre d'urine. Le muscle constricteur de la vessie, soumis à la volonté, permet l'évacuation volontaire de la vessie par le canal de l'urètre, qui sert chez l'homme en même temps pour l'expulsion des spermatozoïdes. Les ovaires sont les deux glandes germinatives de la femme. Ils recèlent 400 000 ovules dont 500 à peu près parviennent à la maturité au cours de la vie d'une femme. Tous les 28 jours, un ovule se détache à partir duquel se développe, après la fécondation, un nouvel être humain. En passant par l'oviducte revêtu de cils vibratiles, l'ovule fécondé est conduit à l'utérus. L'utérus est un muscle creux revêtu d'une muqueuse glanduleuse. L'utérus incorpore l'ovule fécondé en préservant et protégeant le fœtus pendant 9 mois des influences directes du milieu extérieur. Quand c'est un ovule non fécondé qui parvient dans l'utérus, la muqueuse qui s'était préparée à l'avance se détache pendant la menstruation. La collaboration harmonieuse de tous les organes est nécessaire au développement du corps humain, à la conservation de la santé. Elle seule permet la lutte contre les maladies et les agents pathogènes. Souhaitons que cette collaboration exemplaire des différents organes du corps humain soit à la fois symbole et exemple pour les hommes de tous les peuples, tant dans leur vie privée que dans leur vie sociale. Alors l'humanité ne manquera pas de jouir à l'avenir de la paix, de l'amitié, de la santé et d'une vie heureuse.